Bonjour à tous et bonjour et bienvenue à François Normand, journaliste économique et géopolitique chez Les Affaires. Bonjour, M. Normand.
Bonjour.
Et bienvenue, comme je l'ai mentionné, je vais vous présenter en premier lieu. Vous êtes journaliste économique depuis près de 30 ans. Vous êtes au journal Les Affaires depuis l'année 2000, donc 25 ans. Vos sujets de prédilection sont le commerce international, le secteur manufacturier, l'énergie et les ressources naturelles et, surtout peut-être, l'analyse géopolitique. Fait intéressant, vous détenez un MBA de l'Université de Sherbrooke. Vous avez réussi aussi le cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada, de l'Institut canadien des valeurs mobilières, oui, je devrais dire. Vous avez également parfait votre expertise en France, à Bruxelles, à Hong Kong, aux États-Unis. Et vous avez remporté le deuxième prix d'excellence Caisse de dépôt et placement du Québec Merrill Lynch en journalisme économique et financier. Est-ce qu'il me manque quelque chose?
Je dirais peut-être historien de formation pour l'analyse géopolitique. Donc, voilà. Mais c'est un très, très bon tour du propriétaire. Merci.
Parfois, on va justement parler de géopolitique, mais avant de se lancer dans la chose, bon, vous êtes journaliste en premier lieu. Donc, je me dis, on va parler un peu d'avenir, de l'avenir du journalisme. Vous avez connu un monde pré-Internet, si je peux dire. C'est quand même un avantage, à mon avis. Et vous gagnez votre vie par l'écriture, ce qui est aussi de plus en plus difficile, je crois, dans le monde de nos jours. On sait que le secteur médiatique traverse une période plutôt difficile. Comment entrevoyez-vous l'avenir du journalisme et l'évolution des médias, globalement?
J'étais plutôt pessimiste il y a quelques années. Maintenant, je suis plus optimiste. Je pense que justement, le métier de journaliste, d'analyser les faits, d'expliquer les faits à la population, aux lecteurs, il y a une valeur ajoutée de plus en plus à ce métier-là, dans un contexte où il y a beaucoup d'opinions, il y a beaucoup de bruit de fond. Et moi-même, comme journaliste, là, je m'aperçois, à une certaine époque, j'essayais de lire beaucoup de choses pour comprendre ce qui se passe. Et là, de plus en plus, je focalise sur certains médias, à gauche et à droite, justement, pour ne pas tomber dans des bulles, pour avoir le meilleur portrait de la situation en Amérique du Nord comme en Europe. Je vous dirais que c'est plus facile maintenant pour les jeunes journalistes. Moi, quand j'ai commencé, là, rapidement, dans les années 95-96, je blague à peine, il fallait que quelqu'un meure pour entrer dans les médias. Il n'y avait pas de place, il n'y avait pas d'ouverture. Et maintenant, au Journal des Affaires, on embauche de plus en plus des seniors, des jeunes. Je vous dirais, pour l'avenir du journaliste, ce qui est important selon moi pour les journalistes, c'est la formation. Donc, souvent, les jeunes, les moins jeunes arrivent avec une formation en journalisme. C'est bon pour l'écriture, le style. Cela dit, je pense que les jeunes, les futurs journalistes devraient de plus en plus investir dans une autre formation, que ce soit l'histoire, les sciences politiques, la philosophie, la sociologie, l'économie, les sciences, pour bien comprendre le monde, faire les liens, avoir une perspective. Après ça, compléter avec une formation journaliste au niveau certificat ou maîtrise, parce que peu importe la formation universitaire, c'est une méthode intellectuelle pour prendre des faits, les analyser, les mettre en perspective et la critique des sources. Donc, c'est pas parce que quelque chose est en ligne, on entend dire quelque chose que c'est nécessairement vrai. Et surtout, en terminant, pour le journalisme, parfois, c'est qu'il y a beaucoup d'opinions. Il y a beaucoup d'opinions et de moins en moins de faits partout. Et ce qu'on voit parfois, c'est qu'on s'appuie sur de l'opinion pour générer une autre opinion, alors qu'il faudrait toujours s'appuyer sur des faits pour générer une opinion, une analyse ou un commentaire. Mais cela dit, je demeure quand même optimiste pour la suite des choses, de bien expliquer. Et moi, ce qui me rassure, c'est que, par exemple, pendant la pandémie, le Journal des Affaires, les abonnements sont repartis à la hausse. Ça nous a relancé. Et on voit à peu près la même chose avec M. Trump. Donc, depuis que Donald Trump est au pouvoir, on voit qu'il y a un intérêt pour nos reportages, nos articles, nos analyses, justement, pour décortiquer, expliquer, mettre les choses en perspective, tout en nuances. Donc, globalement, je demeure quand même optimiste.
C'est le paradoxe Trump aussi, hein, dans le sens où on dirait que les médias aiment des fois le détester, mais en même temps, ça fait augmenter leurs audiences, leur code d'écoute. Et donc, une espèce de relation love-hate, comme on dit en anglais, aime-haine, si je peux dire. Qui semble, je sais que CNN, les codes d'écoute de CNN avaient augmenté en flèche pendant la première présidence Trump et après ça avait chuté assez rapidement. Là, j'imagine que c'est revenu à la hausse.
Mais, Philippe, je vous dirais rapidement, c'est que j'ai couvert le premier mandat de M. Trump de 2017 à 2021. Il se passait beaucoup de choses, mais c'était pas tous les jours comme maintenant. Là, c'est comme tous les jours et c'est toujours des grosses nouvelles essentiellement tous les jours. Et je vous dirais qu'il y a même une fatigue dans certains médias, que ce soit en Europe ou en Amérique du Nord. Et je me dis, est-ce que ça peut durer comme ça pendant encore trois ans et 9 mois? Ça n'a comme pas de sens. À un moment donné, ça va décélérer. Mais c'est quand même particulier. Et il y a d'autres choses très importantes qui se passent à côté de Trump. La menace existentielle, c'est plus la crise écologique là, qui avance tranquillement, pas vite, qui va toujours être là. Alors que M. Trump ne soit plus au pouvoir en principe en 2029. Donc, une autre administration, peut-être J.D. Vance ou des démocrates, on verra bien. Mais c'est une petite fenêtre, 4 ans, quand on compare à la crise écologique qui est là pour longtemps.
Tout à fait. Donc, on a parlé de Trump, dit Trump, dit géoéconomique, géopolitique. Vous rédigez annuellement un livret, d'ailleurs, là, détaillant les clés géopolitiques pour les entrepreneurs, les entreprises du Québec, mais j'imagine toute personne qui a bien envie de le lire aussi.
Oui.
C'est peut-être une impression, mais j'ai l'impression qu'on parle, ou on parlait, donc peu, des risques géopolitiques en entreprise au Québec pour différentes raisons. Est-ce qu'il y a un déficit, un manque d'analyse et de gestion des risques géopolitiques au sein des entreprises québécoises?
Oui, je pense qu'il y a un déficit, surtout auprès des PME. Moi, je vous dirais, Philippe, quand j'ai commencé mon blog « Zoom sur le mort », j'ai commencé ça en 2015, un an avant que M. Trump arrive au pouvoir. À l'époque, les gens étaient très sceptiques. J'avais des collègues et même la direction qui se demandait quel genre de public ça pourrait toucher. Est arrivé par la suite l'élection de M. Trump, puis on a vu rapidement que les enjeux étaient plus globaux avec M. Trump, plus beaucoup sur les États-Unis, mais quand même, ça avait des impacts ailleurs. Et surtout, ce qu'on s'aperçoit, c'est que il y a une lacune parce que souvent dans nos entreprises, surtout des PME, comme je disais, c'est qu'on était très focalisé sur le marché américain, un peu de commerce ailleurs dans le monde. Tant que ça allait bien aux États-Unis, il n'y avait pas vraiment de problème. Là, on voit qu'il y a des problèmes, ça force la réflexion. Et souvent, en Amérique du Nord, il y a une très bonne gestion des risques économiques et financiers dans les entreprises, que ce soit taux de change, taux d'intérêt, croissance du PIB, perspective de marché, là où seront les prochains marchés de consommateurs, c'est très fort. Mais l'analyse géopolitique, c'est beaucoup moins fort en Amérique du Nord qu'en Europe. En Europe, ça fait longtemps que ça existe. Moi, j'ai vu des postes se créer graduellement à la Banque nationale du Canada, milieu des années 2010. La Caisse des dépôts aussi a commencé, je vous dirais, à partir des années 2014, 15, 16, à développer davantage. Ils ont monté une équipe maintenant, PSP, investissement, l'équivalent de la Caisse au niveau fédéral, a même développé une direction en risque géopolitique il y a un an. Donc, on voit que ça se développe. Le problème qu'on a en Amérique du Nord, souvent, même dans les grandes entreprises qui font de l'analyse du risque géopolitique, c'est souvent des gens issus de la finance ou de l'économie qui font cette analyse-là. Et en tout respect, c'est pas nécessairement les gens qui ont les meilleures qualifications. Moi, je pense qu'il faut avoir une espèce de formation liée à l'histoire, à la géographie, à la sociologie, justement pour comprendre la nature géopolitique. Dans le mot politique, il y a géographie, politique, histoire, culture. Et ce genre de poste-là, souvent, il donnait des financiers, pas assez à des gens qui ont étudié dans les humanités. Et en Amérique du Nord, souvent, ce qu'on note, c'est souvent une espèce de préjugé à l'égard des sciences humaines. Quand j'étais à l'université, on disait souvent des sciences molles, me disaient mes amis dans d'autres facultés. Donc, justement, c'est la revanche des sciences molles qui permettent justement de comprendre un monde qui est de plus en plus dur, pour faire un jeu de mots. Donc, sans l'histoire, sans la géographie, sans l'économie, sans la politique, sciences politiques, sans la philosophie, c'est dur de comprendre le monde. Cela dit, l'enjeu, c'est de comprendre un risque géopolitique et d'expliquer rapidement l'impact que ça peut avoir de manière positive ou négative sur les revenus d'une entreprise, ses marges, ses approvisionnements. Ça se développe rapidement, mais je vous dirais que pour une entreprise, disons qu'une PME qui veut se lancer là-dedans, il faudrait trouver un champion dans l'entreprise, une personne qui pourrait justement s'occuper de ce risque-là. Et on ne devient pas analyste géopolitique du jour au lendemain, donc ça implique beaucoup de lectures, de lire l'histoire, de parler à des gens, et surtout ne pas faire de prévisions. Donc l'analyse géopolitique ne fait pas de prévisions, elle parle de scénarios possibles, souvent on en fait foi, improbable, possible et probable. À partir de ce moment-là, on fait un diagnostic comment est exposée mon entreprise et comment je fais par le suite pour réduire les risques. Ça peut être par la diversification. Mais bref, il y a encore beaucoup de choses à faire au Québec dans nos entreprises. Cela dit, ce qui se passe aux États-Unis et le fait de diversifier les marchés, nécessairement, ça va forcer les entreprises à développer davantage cette expertise-là, parce que c'est bien de diversifier, mais il y a aussi des risques dans les marchés où on va aller vendre nos produits davantage désormais, que ce soit en Europe, en Asie ou en Amérique latine.
Avant de passer à la guerre commerciale qui semble prendre forme avec Trump, là, ce que vous venez de dire vient de m'inspirer une question. Est-ce qu'il y a un... Bon, tout le monde, en ce moment, bien sûr, Trump et les tarifs, la guerre commerciale qui prend forme, mais est-ce qu'il y a un risque qui, pour, comment dire, qu'on ne voit pas venir en ce moment? Là, on est focalisé sur les États-Unis et Donald Trump et les tarifs, mais est-ce qu'il y a un risque qui risque d'arriver dans notre angle mort qui, économiquement parlant, pourrait nous affecter?
Oui, il y en a plusieurs. Je ne sais pas si c'est un angle mort parce qu'on entend parler, mais je pense qu'on ne comprend pas la portée de ce risque-là. C'est le fait que la Chine fasse un blocus ou envahisse Taïwan. Donc, des raisons politiques, mais aussi géographiques, géostratégiques, mais aussi économiques. Taïwan produit 60 % à peu près des semi-conducteurs de qualité standard dans le monde. 90 % des semi-conducteurs de haute qualité sont faits à Taïwan aussi. Donc, si jamais la Chine faisait un blocus ou envahissait Taïwan, ça aurait le même effet. Il y aurait une pénurie de semi-conducteurs dans le monde et ça toucherait pratiquement toutes les industries assez développées dans le monde, que ce soit au Canada, aux États-Unis ou en Europe. Ça, c'est vraiment, comment dire, on n'accorde pas assez d'attention, c'est pas non plus un angle mort nécessairement. Il y a aussi toute l'instabilité en Europe de l'Est. Donc, là, actuellement, on voit qu'il y a peut-être un règlement en Ukraine, mais si on se projette sur le long terme, ça risque peut-être de se dégrader. Mais encore une fois, ça, c'est pas un angle mort. Je vous dirais l'effondrement de la Corée du Nord. Donc, qui avait vu l'effondrement du mur de Berlin en 85, 86, 87? Il y avait quelques... Bon, il y avait Emmanuel Todd, que vous connaissez sans doute, Philippe, qui avait prévu le coup.
Sociologue français, oui.
Oui, tout à fait, qui avait prévu le coup. Si la Corée du Nord, le régime s'effondrait rapidement, donc on peut imaginer un scénario que la Corée du Sud absorbe la Corée du Nord comme la main de l'Ouest a absorbé la main de l'Est en 1990. Cela dit, par rapport à l'Allemagne de l'Ouest, la Corée du Sud, il y a beaucoup moins de morts qu'à l'Allemagne de l'Ouest et sont beaucoup moins riches que les Allemands de l'Ouest. Ce serait très compliqué. Premier défi. Est-ce que la Chine accepterait une nouvelle Corée du Nord, une nouvelle Corée, pardon, unifiée dans le camp des Américains ou des Occidentaux, quoique avec les États-Unis maintenant, on a de la misère à identifier de plus en plus le camp. Ça, c'est vraiment un truc parce que ça risquerait de brasser beaucoup en Asie. Le Japon aussi serait concerné par tout ça. Sinon, risque géopolitique, mais tout ce qui est l'Arctique, je vous dirais. Donc, plus à long terme, ça devient vraiment une région très stratégique. Et en terminant, l'Afrique aussi. Donc, l'Afrique, la population va augmenter de 1 milliard d'habitants entre maintenant et 2050. J'ai fait un petit calcul récemment. On va rajouter l'équivalent d'un Canada par année d'ici 2050. Un Canada par année. Donc, c'est sûr qu'actuellement, exemple, en Afrique subsaharienne, le secteur manufacturier représente déjà 8 % du PIB de l'économie subsaharienne en Afrique. C'est beaucoup. Cela dit, si l'Afrique rate son décollage économique, donc il faut comprendre là, qu'il va falloir éduquer, loger, nourrir, employer 1 milliard de personnes sur 25 ans. C'est majeur. Et des enjeux au niveau de l'environnement aussi. Donc, si jamais l'Afrique n'arrive pas à se développer, il va y avoir des dizaines, voire des centaines de millions de personnes qui vont vouloir migrer sur d'autres continents ailleurs dans le monde. Il va y avoir des enjeux d'intégration. On voit déjà que c'est difficile dans certains pays européens. Donc, l'Afrique, moi, je vous dirais, c'est peut-être l'angle mort le plus important, mais sur une perspective à long terme. Donc, tout le monde intéresse que l'Afrique se développe bien pour eux et aussi pour la stabilité mondiale, parce que c'est vraiment important. Quand je dis un Canada par année, là, c'est beaucoup de monde.
C'est 40 à 45 millions de personnes.
C'est 40 millions. C'est pas 1 milliard divisé par 25, là, c'est 40 millions. Donc, c'est beaucoup de monde en termes de défis. Et pratiquement tous les pays de la planète sont là. Les Norvégiens, les Turcs sont très présents, les Indiens, les Canadiens ont déjà été, mais la Chine, oui. Les Canadiens ont déjà beaucoup été, on en est beaucoup moins. Mais en termes d'occasion, de diversification de marché, c'est sûr que c'est difficile. L'Afrique, il n'y a pas un marché africain, ce sont des marchés africains. Mais bref, bon marché, intéressant pour nous, mais vraiment des risques géopolitiques majeurs si le développement économique ou le décollage économique de l'Afrique n'est pas réussi.
Tout à fait, bonne observation. Bon, passons à l'inévitable, oui. Donald. Qu'est-ce qui motive Donald Trump et les États-Unis à agir de la sorte? Là, qu'est-ce que je veux dire, c'est de la sorte, je dis guerre commerciale ici, mais c'est principalement un changement de régime, j'ai envie de dire international, en ce qui a trait à l'ordre économique. Ouais. On parle des tarifs, bien sûr, mais non seulement des tarifs, mais il semble vouloir monnayer aussi l'appui militaire ou la protection militaire américaine.
Ouais.
Redéfinir toutes les définitions avec ses alliés historiques, incluant ceux de l'OTAN, surtout ceux de l'OTAN, tout en, parallèlement, imposer des tarifs encore plus élevés à la Chine qu'à ses alliés, ce qui est au moins ça pour nous, j'imagine. Mm. Mais non, on sent que l'histoire s'accélère. Donc, à votre avis, qu'est-ce qui motive Donald Trump et les États-Unis à agir de la sorte?
Il y a deux grandes familles de facteurs. J'y vais avec le facteur économique en premier. Bien sûr, Trump veut réduire le déficit commercial américain avec le reste du monde. Je sortais des chiffres pour vous, Philippe. Là, en 2016, j'ai trouvé ça aujourd'hui, c'est très frais, le U.S. Census Bureau. En 2016, le déficit commercial des États-Unis avec l'ensemble de la planète, c'était 735 milliards de dollars américains. En 2020, à la fin du mandat de M. Trump, c'était monté à 901 milliards. Et en 2024, à la fin de l'administration Biden, c'était monté à 1202 milliards. Donc, c'est toujours en progression. Avec le Canada, en 2024, c'est 63 milliards. Ça peut sembler élevé. Mais avec la Chine, c'est 295 milliards. Avec le Mexique, 172. Et l'Union européenne, 236. C'est toujours en progression. Donc, premier facteur, M. Trump veut réduire le déficit commercial. Donc, d'où les tarifs. Il veut aussi réindustrialiser l'économie américaine. Donc, l'idée, c'est de convaincre les entreprises de s'implanter aux États-Unis pour ne pas avoir... Ce n'est pas les entreprises qui paient les tarifs, les Américains qui paient les tarifs, l'importateur, mais ça fait en sorte que les prix augmentent. Donc, pour l'entreprise qui exporte sur le marché américain, si le prix de vente augmente pour son produit, l'importateur américain va prendre un produit américain. Donc, ça se traduit par une perte de revenus ou de vente pour l'exportateur. Donc, et aussi, M. Trump, il veut sécuriser les ressources vitales des États-Unis, donc notamment son intérêt pour le Groenland et surtout pour le Canada, le 51e État. Ressources naturelles, minéraux critiques et stratégiques et l'eau. Donc, au niveau économique, là, c'est vraiment de réindustrialiser, sécuriser davantage les chaînes d'approvisionnement. Les Américains l'ont toujours fait, mais là, c'est comme si qu'ils veulent s'inspirer davantage de la Chine, d'être plus étatique à ce niveau-là. Les Chinois ont une vision souvent sur 10, 15, 25 ans, qu'on n'a pas du tout en Occident. On réfléchit en termes de trimestre. Et lorsqu'on fait des plans d'affaires de 3 à 5 ans, c'est vraiment très, très, très long dans le temps. Donc là, c'est comme si, j'ai écrit récemment là-dessus, c'est comme si les Américains s'inspirent de la vision à long terme de la Chine pour assurer leur approvisionnement sur un horizon de 10, 20, 25 ans. Si vous regardez, Philippe, les deux grandes économies dans le monde, États-Unis et Chine, elles vont se développer de plus en plus. Même si la population de la Chine décroît, elle a quand même une croissance économique qui va encore se maintenir quelques années, décennies. La croissance américaine va se poursuivre parce qu'il y a une hausse de productivité, une hausse de population pour en investir beaucoup. Donc, ces deux grandes économies-là vont avoir beaucoup besoin de ressources. La Chine sécurise ses approvisionnements depuis environ 25 ans en Afrique, en Amérique latine, partout. Les États-Unis essentiellement laissent faire le marché, les entreprises privées pour le faire, pour assurer des approvisionnements américains. Et moi, je pense qu'à Washington, on se dit c'était bien, mais maintenant, c'est plus possible. Il faut être davantage interventionniste au niveau du gouvernement avec les entreprises pour sécuriser les chaînes d'approvisionnement. L'intérêt pour le Groenland s'explique notamment pour ça. Donc, il y a des ressources naturelles. Bien sûr, les Américains pourraient les avoir avec des ententes. Mais ils ont surtout peur que les Chinois et les Russes, un jour, s'accaparent ces ressources-là. Donc, moins de ressources pour les Américains. Ça, c'est le facteur économique. Facteur géopolitique, comme vous l'avez mentionné, avec M. Trump, l'ordre international de l'après-guerre est en train d'agoniser. Donc, rapidement, en 1945, après la Première Guerre mondiale, les Américains avaient contribué à la fin du conflit. Après ça, c'était retiré, avaient laissé les Européens par eux-mêmes s'arranger. Ça amenait à la Deuxième Guerre mondiale notamment. Donc, depuis 1945, les Américains avaient trois fonctions. Donc, ils sécurisaient, ils assuraient la sécurité en Europe occidentale, s'assurait aussi d'assurer un ordre international. On avait créé la FMI, l'ONU, la Banque mondiale, l'OTAN par la suite là, qui a été créée. Et là, c'est comme si que les Américains, étant une puissance déclinante, un déclin relatif, parce que la puissance américaine en termes de valeur économique et militaire augmente toujours, mais puisque celle des autres, je pense surtout à la Chine, augmente, donc toute proportion gardée, c'est un déclin américain. Donc là, les Américains s'aperçoivent que finalement, ils ont moins d'influence qu'il y a peut-être 50 ans, ça leur donne une grande perspective. On assiste à la fin du multilatéralisme. Monsieur Trump est vraiment transactionnel, comme vous disiez. Je défends les pays de l'OTAN, mais à condition que vous me payiez. Donc, me payer étant vous payez votre facture pour vos dépenses militaires. Cela dit, d'un point de vue strictement politique, ce que font les Européens actuellement, d'assumer davantage leur défense, parce que ce sont des pays riches en Europe, c'est essentiellement ce que disait Charles de Gaulle dans les années 50 et 60. On ne peut pas se fier à long terme sur les Américains pour nous défendre, d'où la bombe nucléaire française, l'autonomie stratégique française qui a été hors du commandement militaire de l'OTAN pendant des décennies. Ils sont revenus dedans avec Sarkozy. On rentre dans ce monde-là et on dirait que c'est un monde aussi où on revient aux zones d'influence qui existaient fin 19e, début 20e siècle. Donc, c'est comme si que les États-Unis, là, et c'est très dur de voir clairement ce qui s'en vient parce que c'est très fragmentaire, on n'a pas beaucoup de recul. C'est comme si que les Américains, on n'est pas dans le secret des dieux avec les conversations que M. Trump peut avoir avec Poutine et Xi Jinping. C'est comme si les Américains disent un peu une nouvelle doctrine Monroe, l'Amérique aux Américains, donc dans la zone d'influence des Amériques à partir du canal de Panama jusqu'au Groenland, que techniquement, géographiquement, c'est plus en Amérique qu'en Europe, d'un point de vue politique à cause du Danemark. Donc, zone d'influence pour les Américains dans la portion nord de l'Amérique, donc de Panama jusqu'au Groenland. La Russie influence en Europe de l'Est, là, un peu l'ancien empire soviétique, et la Chine, bien sûr, l'Asie Pacifique, la mer au sud de la Chine, au sud de Taïwan, la mer de Chine méridionale, excusez-moi, voilà.
Donc, ah oui.
Et aussi, bon, l'Europe là-dedans qui se positionne. Encore une fois, moi, je pense que l'Europe dans 5, 10, 15 ans, a le potentiel de devenir un quatrième pôle géopolitique important. Ils ont la puissance politique, économique, militaire, culturelle pour s'affirmer. Il faut juste prendre conscience du pouvoir qu'ils ont. Donc, si vous avez des pays comme l'Allemagne, la France, le Royaume-Uni, qui sont capables de parler quand même d'une seule voix avec les Polonais aussi, peut-être les Ukrainiens, là, vous commencez à avoir une colonne vertébrale de la sécurité en Europe. Et ça peut devenir intéressant. Donc, bref, économie plus d'industrie aux États-Unis, région de déficit commercial. Au niveau politique, c'est mieux positionné des États-Unis dans un contexte où il y a un déclin de la puissance américaine. Et le rapprochement avec la Russie, ça peut être aussi vu d'une manière... si on se projette à long terme, il y a des gens qui affirment que c'est peut-être un peu ce qu'a fait Nixon pendant la guerre froide en détachant la Chine communiste de la Russie. Pour affaiblir le bloc communiste. Donc, effectivement, c'est possible qu'effectivement, cette stratégie-là, à long terme...
Je crois que c'est Brzezinski, si je peux me permettre. J'ai oublié son prénom, mais conseiller...
Zbigniew Brzezinski, oui.
Zbigniew Brzezinski, qui avait dit « On est allé en Chine cette fois-ci pour détacher la Chine communiste de l'Union soviétique de l'époque.
Ouais.
Et dans 50 ans, on va devoir faire l'inverse. Détacher la Russie de la Chine qui va avoir... inverser les rôles en termes d'influence et de pouvoir face à la Russie. Donc, c'est pas tout à fait fou. Là.
Non, c'est un scénario plausible. Et c'est sûr qu'actuellement, ça a l'air difficile de voir ça, mais c'est je m'attends pas qu'il y ait une alliance très forte entre les États-Unis et la Russie, malgré tout. Mais effectivement, écoutez, en 1945, ça avait l'air totalement farfelu de parler de l'Union européenne sur l'Europe en ruine, quand les Allemands et les Français se détestaient. Peut-être que dans 25-50 ans, il va y avoir une espèce de sécurité pan-européenne. De Gaulle disait de l'Atlantique à l'Oural, là, l'Europe. Là.
Mm.
Donc, la même ère de civilisation, la grande civilisation européenne avec la partie orthodoxe et la partie catholique protestante. Peut-être qu'un jour, on assistera à ça. Est-ce que M. Trump le voit comme ça? Je ne sais pas. Mais bref, l'ordre international est en train de bouger. Ça arrive souvent dans l'histoire. Là, on avait vécu une espèce de 8 décennies d'une paix relative à 1945 à maintenant avec la Pax Americana. Il y a un nouvel ordre international qui va se mettre en place. C'est dur de voir les contours exacts pour l'instant. Cela dit, pour le Canada, ça nécessite nécessairement qu'il faut revoir nos alliances. Et ce qui est le choc pour les Canadiens, c'est de considérer peut-être que les Américains ne sont plus nos alliés, comme on a connu longtemps. Donc, ce n'est pas un pays ennemi, mais ce n'est plus des alliés comme auparavant. Et je pense que le lien de confiance est brisé avec les États-Unis. Même si les démocrates reprennent le pouvoir en 2029, peut-être que ça va revenir à une situation, une relation plus cordiale, mais il y a quelque chose de brisé, qui se brise actuellement, le lien de confiance. Et c'est très dur de réparer un lien de confiance aussi.
Vous avez mentionné que l'Empire américain, ou je dis l'Empire américain, mais les États-Unis étaient sur un déclin relatif. Ma façon d'interpréter la chose, c'est que Donald Trump tente d'inverser ce déclin, assurer la pérennité de l'Empire américain pour le 21e siècle, disons. Est-ce qu'il peut réussir à inverser le déclin, à votre avis?
Ça dépend qu'est-ce qu'on entend par puissance américaine. Puissance américaine, donc. La puissance américaine pendant la guerre froide et à la fin de la guerre froide. Pendant la guerre froide, c'était vraiment, l'armée américaine est en Europe, la marine américaine, la Navy, on ne se rend pas compte, mais la mondialisation de l'économie de 1945 à maintenant, pourquoi ça fonctionne? Essentiellement, c'est parce que la Navy américaine navigue sur tous les océans. C'est ce qui permet au commerce international de naviguer relativement de manière sécuritaire dans des détroits, etc. Donc, sans la marine américaine, on aurait un autre type de mondialisation. Donc, il y avait une puissance militaire qui accordait, qui permettait la mondialisation. Il y avait aussi le soft power américain qui faisait en sorte que ça convainquait les gens d'adhérer aux valeurs des États-Unis. Donc, ça renforce l'influence américaine. Actuellement, je ne suis pas certain que le soft power américain se porte très bien. Donc, si Trump veut, rendre sa grandeur à l'Amérique, comme il dit, « Make America Great Again », il peut réindustrialiser davantage les États-Unis. Mais à quel prix? C'est que là, il est en train de se faire... il est en train de rompre les alliances traditionnelles avec les Européens. Avec les pays asiatiques non plus, ce n'est pas très intéressant pour lui. Donc, si on se projette dans 10-15 ans, peut-être que l'économie va se porter mieux. Peut-être que les sources d'approvisionnement, exemple en minéraux critiques des États-Unis, ça va être beaucoup mieux que maintenant. Mais en termes d'alliance, d'amis et d'influence dans le monde... ça risque pas d'être très fort par rapport à maintenant. Si vous regardez la Chine, les pays sont alliés de la Chine, souvent des alliances parce qu'on craint la Chine ou bien qu'on a peur de représailles économiques de la Chine ou politiques. Alors que pendant la guerre froide, il y avait vraiment, une volonté d'être les alliés des Américains. Donc, les Européens aimaient être les alliés des Américains parce que c'était une puissance amie. Il y avait une certaine admiration, même si parfois on était très critique des États-Unis. Donc, oui, M. Trump veut, réaffirmer une puissance économique et militaire peut-être des États-Unis. Au point de vue de l'influence, je ne suis pas certain que ça va être une influence constructive avec ce ton-là, malheureusement.
Mais l'amitié européenne envers les États-Unis, c'est pas transformé en dépendance du côté européen surtout, même canadien en fait, là, mais européen surtout?
Oui, tout à fait, effectivement. Puis encore une fois, moi j'aime bien Charles de Gaulle, je suis en train de lire ses mémoires de guerre justement actuellement. Effectivement, je pense que c'est possible que dans 5-10 ans qu'on dise merci, M. Trump. Pourquoi? Parce que un continent riche, développé, avec une population de plus de 500 millions d'habitants éduqués, est capable d'assumer sa défense toute seule, ce continent-là. Et je vais vous citer une citation du premier ministre polonais, M. Tusk. Il a fait ça la semaine dernière. Il a dit, il a arrondi les chiffres, il dit « Pourquoi 500 millions d'Européens demandent à 300 millions d'Américains de les défendre contre une Russie de 140 millions d'habitants? » Donc, si vous prenez la Russie, là, j'ai encore vérifié la semaine dernière, le PIB de la Russie, c'est équivalent à 94% du PIB du Canada. Donc, avec 40 millions d'habitants, on produit plus de richesses que la Russie. Actuellement, la Russie met 10% de son PIB dans l'armée, ce qui lui permet d'avoir une grande armée. Mais si vous regardez la richesse européenne, si les Européens mettent de plus en plus d'argent dans leur défense, c'est une question de temps avant qu'ils arrivent au même niveau que la Russie, donc ils vont être capables de se défendre par eux-mêmes. Le Canada aussi va devoir investir davantage dans sa propre sécurité pour assurer sa souveraineté dans l'Arctique. On aurait dû sans doute le faire depuis 1945 et pour toutes sortes de mauvaises raisons, en raison du parapluie américain qui était facile, donc on a moins investi dans plein de choses, incluant notre défense en Europe, au Canada, un peu partout dans le monde. Les Japonais aussi ont fait la même chose, vous n'avez pas le choix de dire en 1945. Mais bref, on s'aperçoit que de plus en plus, les pays vont assumer eux-mêmes leur sécurité économique et de défense. Donc, encore une fois, dans 5-10 ans, peut-être que les gens vont dire « Merci, M. Trump, ça nous a permis un réveil collectif ». On n'entend pas dire comme ça officiellement en Europe actuellement, mais on sent qu'il y a un réveil et que des décisions qui auraient dû se prendre bien avant se prennent désormais. Donc, ouais.
Tout à fait, on commence à l'entendre en Europe. D'ailleurs, il y a certains qui commencent à dire que l'occasion se présente pour que ce qu'appelle l'Europe de la défense se forme finalement.
Ouais.
Parce que ça a toujours été sous-traité à l'OTAN, ce qui veut dire en réalité aux États-Unis. Mais bon, tout à fait. Comment est-ce que les choses vont se terminer pour le Québec et le Canada? Je dis terminer entre guillemets ici, mais comment est-ce que... Parce que là, on anticipe bon, les tarifs qui entrent ou pas en vigueur. Là, ça change à chaque 24 heures. Mais à ma connaissance, il y a peu de gens qui discutent de où est-ce que ça s'en va exactement dans les prochaines années, comment on va en sortir ou comment ça va se terminer, quel genre de forme tout ça va prendre dans, disons, 2 ans, 3 ans ou 5 ans pour le Québec et le Canada spécifiquement. Est-ce que vous avez pensé à la chose?
Oui, moi, je vois deux grands scénarios. Le premier scénario, c'est que finalement, à force de négocier entre le Canada et les États-Unis, on arrive à un terrain d'entente à faire baisser les tarifs ou bien à les éliminer complètement. On revient à une situation de libre-échange comme l'accord que Trump avait signé, qui est entré en vigueur en 2020, qu'il ne respecte pas. Je vous dirais, cela dit, pour le Canada, au prix de concessions majeures, par exemple au niveau de la gestion de l'offre, les minéraux critiques et stratégiques. Les Américains ont déjà accès à nos minéraux critiques et stratégiques. Si vous regardez l'investissement minier au Québec, dans les mines, il y a beaucoup d'investissements européens, un peu asiatiques, mais américains aussi. Donc, une entreprise américaine qui investit dans un projet au Québec est capable d'expédier des minéraux pour les faire transformer aux États-Unis sans problème. À vrai dire, les Américains font ça depuis la fin du 19e siècle. Donc, déjà au début 20e, les Américains ont développé la foresterie ici, le minier. Le premier lingot d'aluminium qui était fondu en Amérique du Nord était fondu au Québec et non pas aux États-Unis, par Alcoa. Et c'était exporté sur le marché américain, puis justement pour nourrir l'industrialisation du pays qui commençait vraiment fin du 19e. Donc, possible qu'on ait des concessions. Peut-être que les Américains veulent avoir un meilleur accès à nos minéraux critiques, peut-être avec des ententes à long terme, des contrats à long terme, avec de meilleurs prix, c'est possible aussi. Tout ce qui est accès à l'eau potable aussi, c'est un enjeu, je pense, qui pourrait arriver. Donc, on arrive à régler les tarifs, mais en faisant beaucoup de concessions au niveau de l'économie et de l'accès à nos ressources. Cela dit, l'autre scénario qui est moins sympathique, c'est que les tarifs demeurent en place, que c'est la fin du libre-échange nord-américain. Donc, le libre-échange a commencé en 1989. Donc, on évolue dans un environnement de libre-échange, de tarifs permanents. Et j'ai fait un article là-dessus. Je vais vous donner juste un chiffre. Entre 1870 et 1945, les tarifs pour les produits canadiens vendus sur le marché américain étaient supérieurs à 25 %. Donc, ça n'a pas empêché le Canada d'exporter sur le marché américain. On a surtout développé le marché canadien pendant cette époque-là. Là, vous allez me dire, les économies étaient moins intégrées que maintenant. Il n'y avait pas de juste à temps que ça se promenait sur la frontière comme l'industrie automobile. Cela dit, ça montre qu'on a toujours évolué dans un environnement tarifaire depuis pratiquement 150 ans. On a appris à se développer là-dedans. On a appris à développer le marché canadien. Donc, je ne crois pas à des tarifs de 25 % qui vont rester en place, là. Mais je pense que dans les scénarios possible pour l'avenir, c'est qu'on demeure dans un environnement de tarifs, peut-être. Avant le libre-échange avec les Américains, c'était environ 4-5 %. Donc, peut-être qu'on va avoir du 5 à 10 % de manière permanente. Ça veut dire que nous, Pour continuer devant sur le marché américain, pour que nos entreprises, on va en parler, soient plus productives. Il faut aussi que le marché canadien soit plus attractif pour les entreprises étrangères parce que là, dans un environnement de libre-échange, il y avait des entreprises françaises, par exemple, qui s'installaient à Montréal pour vendre sans tarif sur le marché américain. Là, si on reste dans un environnement tarifaire de 5 à 10 % par exemple, c'est beaucoup moins intéressant pour l'entreprise française de venir ici. Donc, si on crée un environnement d'affaires attrayant pour les entreprises étrangères, donc faciliter les affaires, de faire des affaires, de créer des entreprises, de développer des projets ici, sans faire de concessions sur l'environnement. Il faut surtout aussi, si on reste dans un environnement tarifaire, de développer nos marchés, donc au niveau canadien, entre les provinces. Avant que Trump prenne le pouvoir, c'était plus facile de vendre aux États-Unis que de vendre en Ontario ou en Alberta. C'est un paradoxe. Donc, bon, c'est pas un énorme marché, là. Donc, on est 8 millions au Québec, là. Donc, c'est un marché de 32 millions au Canada anglais. Donc, c'est pas énorme, mais ça peut quand même aider certaines entreprises. Il faut surtout diversifier nos marchés dans le monde. Donc, l'Europe, l'Asie, le Japon, la Corée du Sud, l'ASEAN, les pays de l'Association du Sud-Est asiatique. L'Afrique, comme je disais tout à l'heure. Cela dit, c'est pas parce qu'on veut diversifier qu'on peut se diversifier facilement pour exporter en Europe. Il y a toute la notion des certifications, ça peut prendre plusieurs temps. Et enfin, il faut développer de nouvelles alliances politiques là, pour se rapprocher de la France, du Royaume-Uni, de l'Allemagne, du Japon, de la Corée du Sud, d'Australie notamment. Donc, moi, je pense qu'il faut se préparer à un environnement où il va y avoir des tarifs. Et si jamais les tarifs disparaissent, mais, on va être plus efficace, tout simplement. En se préparant au pire, en espérant mieux, on va être plus efficace. Si notre stratégie, c'est de se dire les tarifs ne sont plus là dans 2-3 ans, puis les tarifs perdus demeurent la nouvelle réalité, on risque d'avoir des problèmes.
Tout à fait. Vous avez fait référence à la période 1870 jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale. 1945, fin de la Deuxième Guerre mondiale. Et ce qui est intéressant, c'est que Trump fait référence à cette même période, particulièrement à la fin du 19e sous McKinley, le président McKinley, qui avait d'ailleurs imposé des tarifs importants. Et un analyste britannique avait dit récemment, Michael Everett, en fait, les États-Unis se sont industrialisés grâce aux tarifs au 19e siècle en particulier, parce que sinon, ça aurait resté une espèce de puissance agricole qui aurait exporté des produits agricoles partout dans le monde, mais qui aurait importé tous les produits finis à valeur ajoutée, manufacturiers, du Royaume-Uni, qui était à l'époque la puissance industrielle. Donc, c'est intéressant. En fait, je pense que vous mettez le doigt sur quelque chose, parce que même Trump lui-même fait référence à la même période.
Ben, si vous permettez, Philippe,
allez-y.
À cette période-là, les États-Unis avaient des tarifs, mais le Canada aussi imposait des tarifs.
Tout à fait.
Donc, en 1975, nos tarifs étaient encore de 15 % pour l'ensemble de la planète, malgré le gap, et les États-Unis, c'était à peu près 5 % Donc, puis la Corée du Sud s'est développée comme ça, le Japon aussi. En 1945, il y a des tarifs partout. Là. C'était une des raisons de la guerre, notamment, parce que dans les années 30, là, je crois que en 32-33, c'est monté jusqu'à 50 % aux États-Unis. Donc, ça a complètement tué le commerce international. Et le gap, justement, après la guerre, c'était de faire baisser graduellement les tarifs pour stimuler le commerce international. Et
le GATT étant le General Agreement on Trade and Tariffs, quelque chose comme ça?
Effectivement, le Canada est un des pays fondateurs du GATT et c'est devenu l'OMC en 1995. Maintenant, l'OMC est un peu sur la glace. Là, il n'y a plus vraiment tout le monde qui a des accords bilatéraux. Donc, Trump est vraiment en train d'achever l'esprit du GATT. Là. Un autre sujet de balado peut-être pour vous, Philippe, mais c'est quand même dramatique. Cet outil-là, qui a permis à des millions de personnes de sortir de la pauvreté, qui a stabilisé le commerce international, qui a favorisé la paix. On est en train de renoncer à ça pour revenir à un environnement tarifaire fin 19e siècle. Et ce que M. Trump ne dit pas rapidement, c'est que McKinley, après quelques années, il a trouvé que la politique des tarifs, finalement, ce n'était pas une bonne idée. Donc, il est revenu un peu sur son argumentaire au début du 20e, juste à la fin de son mandat.
Intéressant. Passons à l'économie québécoise. On l'a mentionné brièvement. Bon, dans un contexte où, je sors quelques éléments ici, la productivité au Canada et au Québec est en baisse depuis à peu près une décennie, là, approximativement. Le vieillissement de la population s'accélère, ce qui réduit la population active ou la taille de la population active. L'économie au Québec semble aussi avoir la difficulté à entrer dans une ère de production de produits à valeur ajoutée. On exporte des boulons, mais on ne fait pas de voitures, par exemple. Je dis ça comme exemple. Et on voit que l'État québécois, même s'il s'est transformé, reste un joueur prépondérant dans l'économie québécoise. Comment entrevoyez-vous l'avenir, le potentiel économique du Québec?
Il y a des éléments que j'ai mentionnés tout à l'heure. Je pense qu'il faut vraiment faire des chantiers de productivité. Là, c'est maintenant ou jamais. Si on n'augmente pas notre productivité dans les prochaines années, on ne le fera jamais, là, parce que là, c'est vraiment important. Et c'est dur à avoir la productivité parce que ce n'est pas de travailler plus, ce n'est pas de travailler plus fort, c'est travailler mieux. C'est avoir de meilleures technologies. La productivité, c'est compliqué. C'est des nouvelles technologies, former les employés, puis l'organisation du travail. Rapidement, j'ai parlé d'une entreprise il y a quelques mois. Ils avaient 5 étapes dans un processus de production dans 1 heure. Ils sont passés de 5 à 3 étapes. Au lieu de prendre 1 heure pour faire le produit, ça prenait 30 minutes avec aucun impact sur la qualité du produit. Ils faisaient comme ça parce qu'ils avaient toujours fait les choses comme ça. C'est en faisant une espèce de kaizen, une réflexion à l'interne sur l'efficacité, qu'ils ont découvert, comment dire, cette chose-là qu'ils pouvaient couper. Donc, on augmente notre productivité. Faut aussi faciliter la création d'entreprises au Québec. C'est encore très difficile de créer des entreprises. Il y a beaucoup de paperasserie. C'est vraiment compliqué. Faut aussi valoriser la formation technique. On a eu tendance au Québec à partir de la Révolution tranquille de favoriser avec raison, de valoriser les éducations postsecondaires, collégiales, universitaires. Effectivement, faut le faire. Mais en même temps, on a aussi dévalorisé un peu le savoir technique. Donc, exemple, en Allemagne, c'est très cool de travailler dans le secteur manufacturier. Je suis pas sûr que c'est cool, comme diraient mes ados, d'être dans le secteur manufacturier au Québec. Pourtant, vous avez des emplois très techniques avec la fine technologie, l'intelligence artificielle, c'est très bien payé. Il y a beaucoup de possibilités de croissance. Il faut aussi continuer la décarbonation de notre économie. Donc, le réflexe actuellement, c'est de se dire, puisque les Américains tournent un peu le dos à cette transition-là, pourquoi nous, on ne prendrait pas une pause? Le problème, c'est si on prend une pause, mais les autres régions dans le monde ne prennent pas vraiment de pause. En Europe, on va continuer. La Chine continue à être un leader en tout ce qui est la filière batterie, véhicules automobiles. Et si on veut diversifier nos marchés, puis on ralentit notre transition énergétique, par exemple, en Europe, il va y avoir des nouvelles certifications qui vont rentrer bientôt pour des produits faibles en carbone. Donc, si nous, on s'est collé sur l'exemple américain, puis on n'a pas décarboné assez nos entreprises, notre économie, puis on veut vendre en Europe, le piège qui nous pend sous le nez, c'est que nos produits ne sont pas assez décarbonés pour les vendre en Europe, puis ça va coûter des tarifs pour les vendre aux États-Unis. Donc, on continue la transition énergétique. Il faut développer nos minéraux critiques et stratégiques. La planète en a besoin. Cela dit, essayons de faire de la deuxième et de la troisième transformation.
Ici,
oui. Donc, deuxième, ça peut être des éléments pour mettre dans des batteries. La troisième, ça peut imaginer des voitures ou des batteries qui sont vraiment assemblées ici. Et je vous dirais, je vais peut-être surprendre tout ce qui est l'économie de la mer. Donc, la valorisation de la ressource marine, le génie maritime, la navigation intelligente. Partout dans le monde, ce qu'on appelle l'économie bleue se développe en Europe, en Asie. Et nous, on est chanceux, on a le Saint-Laurent qui traverse le Québec. Il y a beaucoup de potentiel pour développer l'économie de la mer, des centres de recherche, interaction avec d'autres continents. Donc, je vous dirais, au niveau de l'économie, c'est à peu près ça qu'il faudrait faire au Québec, là.
Et quels seront les enjeux majeurs qui vont déterminer le bien-être économique du Québec? Vous avez parlé des axes à prendre, mais le vieillissement, il y en a un qui me vient à l'esprit. Productivité, comme vous avez dit. Mais par exemple, est-ce qu'on peut continuer dans le même modèle de développement économique où, en fait, j'empiète sur ma prochaine question, mais où l'État joue un rôle toujours important? Parce que c'est vrai qu'au Québec et au Canada, je ne pensais pas que le Québec, là, le financement de nouvelles entreprises et de nouvelles technologies en particulier a toujours été un problème, tandis que les Américains, surtout en Californie, avaient un peu maîtrisé la chose, et ça venait du secteur privé.
Ouais.
On peut dire ce qu'on veut de la stratégie là, du gouvernement caquiste de M. Legault. Ceci dit, il a compris que oui, l'investissement est venu de la guerre et il essaie de faire quelque chose, mais ça vient encore du public. On a l'impression qu'il y a peu de fonds privés, ou du moins proportionnellement beaucoup moins qu'aux États-Unis. Ça, c'est certains enjeux qui me viennent en tête. Est-ce qu'il y a des enjeux qui, pour aller d'un côté ou de l'autre, à votre avis, qui vont être déterminants dans l'avenir économique du Québec?
Oui, je vais avoir la deuxième question en deuxième lieu. La première, écoutez, c'est un classique, là, je ne vais pas réinventer la roue. Il faut vraiment miser sur l'éducation donc, pour se développer. L'innovation, mais pas innover pour innover. Un des problèmes qu'on a au Canada par rapport aux Allemands et aux Américains, on a souvent des bonnes idées, mais on a de la misère à les amener au marché. Il faut faire de l'innovation appliquée. Bien sûr, l'innovation, la recherche pure est importante, mais il faut s'assurer que les bonnes idées se retrouvent rapidement sur le marché. Il faut investir beaucoup plus en R&D. Souvent, c'est le secteur public qui stimule ce genre de choses-là. Il faut que les entreprises privées le fassent davantage. Vous savez, je ne sais pas si vous êtes familier avec l'expression manufacturier 4.0. Donc, c'est l'industrie manufacturière où vous avez l'intelligence artificielle, les robots, l'automatisation, c'est très intégré. Les machines se parlent entre elles. C'est très développé aux États-Unis, en Allemagne, en Europe. Au Canada, on est un peu en retard et au Québec aussi. Le manufacturier 1.0, c'est genre le début du 20e siècle. Après ça, l'électricité arrive, c'est le 2.0. Le 3.0, c'est l'informatique dans les années 60. Et le 4.0, c'est depuis les années 2010. Il y a encore des entreprises au Québec qui n'ont pas d'automatisation, qui sont manufacturiers 2.0. Donc, sont vraiment mal outillés, malheureusement. Il y a toutes sortes de raisons qui expliquent ça. Donc, c'était facile de vendre sur le marché américain, le libre-échange, le taux de change, etc. Donc, pas d'effort à faire de productivité. Donc, investir beaucoup. Maîtriser les nouvelles technologies, très important au Québec dans nos entreprises. Je viens de parler d'intelligence artificielle. Il y a vraiment une révolution qui se prépare en IA dans tous les secteurs, que ce soit en journalisme, dans les usines, même en droit, en médecine. Il faut embrasser ces technologies-là elles sont là, ils ne vont pas partir. Là. C'est comme les entreprises qui font résister à l'informatique là, il y a quelques décennies. Je n'aurais pas de site web, hein, ben, je vais garder ma dactylo. Avec le recul, ça semble un peu dérisoire. Donc, l'intelligence artificielle, il faut l'apprivoiser. Ça va détruire des emplois. Comme l'informatique a détruit des emplois, ça va en créer aussi. Il y a 100 ans, je disais, la majorité des Québécois travaillaient dans le secteur agricole, sans doute. Maintenant, c'est 2% de la population. Puis le taux d'emploi est plus élevé maintenant qu'il ne l'était au début du 20e siècle. Donc, mais ça passe par l'éducation, maîtriser les technologies. Et même moi, dans mon travail, on commence à utiliser l'IA. Donc, il faut s'intéresser à ça. Donc, pour moi, c'est un outil qui m'aide à faire de la recherche. Là, ça ne fait pas de la recherche pour moi. Ça permet d'être plus efficace et je valide les sources. Et je referme ma parenthèse. Mon exemple peut s'appliquer dans différentes industries. L'IA permet, par exemple, le secteur manufacturier de faire des meilleures prévisions de production, de réduire les pertes, d'analyser des bases de données qu'aucun humain ne peut analyser, même s'il met des heures et des heures. Donc, l'IA peut faire ça en quelques secondes. Ça permet de prendre les ressources humaines et les mettre sur des choses plus à valeur ajoutée. Le jugement à la perspective que l'IA n'aura pas. Et enfin, je vous dirais, ce qui est important pour notre économie, c'est d'attirer des talents. Et là, je refais le lien avec les États-Unis. Actuellement, aux États-Unis, il y a des gens qui utilisent le terme « attaque contre la science ». Donc, je ne sais pas si c'est une attaque contre la science, mais il y a quand même beaucoup de recherches qui semblent être valorisées dans ces organisations publiques aux États-Unis avec la nouvelle administration Trump. Je pense aujourd'hui ou hier qu'en Europe, on commence justement à solliciter des chercheurs américains pour venir travailler en Europe. Si jamais il y a des scientifiques qui décident de quitter les États-Unis, c'est peut-être à rapatrier quelques-uns chez nous, ça pourrait être bon. Donc, il faut que le Canada demeure un pôle pour attirer des gens.
Dire qu'historiquement, ça a été l'inverse. Les Canadiens et les Européens quittaient pour les États-Unis, les scientifiques, pour profiter du c'est bon, l'académique et intellectuel, les scientifiques américains.
C'est un exode de cerveau qui a été dramatique pour le Canada et le Québec pendant des années. Je ne m'attends pas à une inversion majeure des flux, mais bon, on peut quand même attirer certaines personnes. Si jamais c'est bien compliqué de faire la recherche. Au niveau de l'interventionnisme de l'État, effectivement, moi, l'exemple que je peux vous donner, c'est la filière batterie dans laquelle j'ai travaillé avec un collègue. Il y a encore un an, on avait l'impression que la saveur du mois, c'était vraiment la filière batterie et qu'il n'y avait aucun autre secteur de l'économie ou presque qui ne comptait, j'exagère à peine. Même dans l'attribution des blocs d'électricité, on donnait beaucoup de choses à la filière batterie et tout ce qui gravitait autour de la filière batterie, on a délaissé certains secteurs. Cela dit, je pense que les gouvernements, et tous les gouvernements le font, par exemple, que ce soit, par exemple, aux États-Unis, les Américains mettent des sommes faramineuses dans l'aérospatiale, le civil, militaire aussi. Même chose en Europe avec Airbus. On a souvent critiqué l'argent que les gouvernements mettaient dans Bombardier, mais ça n'avait aucune, mais aucune mesure avec ce que les Européens ont fait avec Airbus ou les Américains avec Boeing. Cela dit, oui, le libre marché peut faire des choses, mais lorsque vous avez des nouvelles industries, souvent pour les positionner, il faut un coup de pouce de l'État dans certains secteurs stratégiques qui sont très intensifs en capital, très risqués et dont le rendement sur l'investissement peut prendre de 5, 10, 15, 20 ans. Il n'y a aucune entreprise privée qui peut attendre 5, 10 ans pour un retour sur l'investissement. Dans certaines industries, je pense que l'État doit être là. Mais pas des subventions. Moi, je vous dirais peut-être des prêts à long terme ou des participations avec une sortie graduelle si on veut le faire un jour. Cela dit, ce que fait le Québec, là, c'est, comme vous l'avez dit, Philippe, l'Ontario aussi le fait. Moi, je suis allé en Ontario en reportage l'été dernier pour voir la filière batterie qui se met en place. Et là, je vais vous donner quelques chiffres là, pour vous donner une idée des subventions que le fédéral et l'Ontario ont mis dans les projets. Je vous donne trois projets. Usine de Volkswagen, filière batterie, donc projet de 20 milliards, dont 13 milliards de subventions. Projet de Stellantis LG à Windsor, 20 milliards le projet, 15 milliards de subventions. Et Honda, un projet à Alliston, au nord de Toronto, 15 milliards le projet, subvention de 5 milliards. Ça, c'est des fonds publics. Pourquoi? Parce que les Américains, avec l'IRA, l'Inflation Reduction Act de Biden, qui avait des mesures pour stimuler la filière batterie, a fait en sorte que, pour éviter que toutes ces entreprises-là s'installent aux États-Unis, dans la Battery Belt qu'on appelle, une espèce, c'est le Midwest un peu plus vers l'Est, là, je vous dirais de la Georgie jusqu'au Michigan, pour une espèce de couloir, une dizaine d'étals, il appelle ça la Battery Belt. Mais sans ces subventions-là, Volkswagen, Stellantis et Honda seraient sans doute installés aux États-Unis pour faire les batteries. Donc, le Canada a voulu mettre des subventions pour favoriser l'émergence, mais qu'on met de l'argent dans la filière batterie, on n'en met pas ailleurs. Donc là, c'est des arbitrages qui ne sont pas nécessairement faciles. Exemple, juste le 15 milliards de subventions pour Stellantis LG, imaginez-vous le nombre de PME que vous pouvez aider avec 15 milliards. Mais en même temps, vous ne développez pas nécessairement une grosse filière structurante, donc c'est des arbitrages qui sont difficiles à faire.
Et on laisse cet arbitrage à l'État?
Non, moi je pense que dans un monde idéal, il faut que l'État crée les conditions idéales pour que les entreprises innovent, créent des secteurs. Je vous donne un exemple. Si on avait laissé au secteur privé le soin de développer l'aviation, ça ne serait pas développé très, très rapidement parce que c'était très difficile. Et c'est surtout la Deuxième Guerre mondiale qui a permis de faire des percées majeures dans l'aviation, que ce soit en Europe et en Amérique du Nord. Et par la suite, le secteur civil. Aux États-Unis, Boeing, qui est dans le militaire et le civil, profite souvent de la recherche militaire pour appliquer au civil. Il y a la même chose avec Airbus en Europe. Donc, les secteurs très, très stratégiques à long terme, c'est dur de laisser ça seulement au secteur privé. Est-ce que c'est à l'État de décider quelle va être la filière? Je vous dirais, dans un monde idéal, c'est peut-être un mix des deux. De se parler, puis si le privé estime qu'il y a un secteur qui est très porteur, mais qui est très risqué, une façon de le dérisquer, c'est d'impliquer le privé avec des prêts à long terme ou des participations. Mais ultimement, c'est des entreprises privées qui créent des emplois. Quoiqu'au Québec, l'Hydro-Québec en crée beaucoup et investit beaucoup, là. Donc, c'est... Moi, j'aime bien l'économie mixte, là, donc privé-public, là, avec pas trop de public, mais un public efficace. C'est pas parce que l'entreprise, c'est pas parce que vous avez une société d'État qu'une société d'État est nécessairement inefficace. Une société d'État peut être efficace, c'est une question de culture d'entreprise. Elle peut être très innovante aussi. Donc, mais si vous me demandez de choisir entre secteur privé et secteur privé pour développer l'économie des secteurs, c'est sûr que j'ai un petit préjugé secteur privé, de l'entrepreneuriat, les petites entreprises, mais avec l'appui de l'État bienveillant, pas très loin, mais pas trop interventionniste. Juste bien dosé.
Oui, je pense qu'on a passé l'ère de la création des sociétés d'État comme Hydro-Québec ou la SAC.
Même. Non, je pense que c'est une fenêtre historique qui s'est fermée, effectivement. C'était une autre époque là, où il fallait faire vite. Là. Puis, dans l'histoire du Québec, c'était particulier aussi. Il y avait des projets. Il y a une dimension politique dans tout ça pour
En plus.
Nationaliser l'énergie, ouais.
Tout à fait. Finalement, si vous aviez un conseil pour les individus, les salariés, les entrepreneurs, les entreprises du Québec pour naviguer les fluctuations économiques et géopolitiques qu'on a mentionnées depuis le début de cet entretien, que serait ce conseil ou ces conseils, bien sûr?
Faites-vous allusion à des conseils de lecture ou de...
Ben, si vous voulez, en fait, j'avais pas pensé à ça. Moi, j'avais pensé à une façon de voir le monde pour anticiper, gérer les fluctuations rapides. Le contexte un peu, là, c'est que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui vivent leur vie au jour le jour, notamment des individus et des salariés, là, pas que des entrepreneurs et des entreprises, sans trop se poser de questions macronomiques, ce qui est absolument normal. Ils n'ont pas à le faire. Ceci dit, je pense qu'on entre dans une ère où ces questions vont impacter notre quotidien beaucoup plus qu'on le croit ou qu'on le souhaite. Mais si les conseils de lecture, par contre, très bonne idée, oui. Okay.
Ben, écoutez, un peu des formations professionnelles, moi, je pense que pour comprendre le monde, il faut comprendre d'où vient ce monde-là. Donc, je pense qu'une bonne façon de comprendre l'actualité, de résoudre peut-être le niveau d'anxiété, c'est de lire beaucoup sur l'histoire, donc l'histoire politique, économique, et de pas hésiter à reculer de 100, 200 ans. Ça permet de comprendre le monde. Juste actuellement, ce que veut faire Donald Trump, ça ressemble un peu à ce qu'on appelle les républiques impériales américaines, la deuxième moitié du 19e siècle. Donc, vous l'avez dit avec les tarifs de McKinley, mais c'est une époque aussi où on voulait accaparer des territoires. Lire des livres d'histoire. Moi, j'aime bien aussi les essais de prospective, mais se méfier des gens qui font des prévisions, des prédictions. Moi, j'aime bien les gens qui font des scénarios, donc qui vont dire improbable, possible, probable. Donc, de lire beaucoup. Moi, j'aime bien les balados. Et je vous dirais, promenez-vous à gauche et à droite, là. Si vous êtes de droite, mais lisez quand même à gauche. Si vous êtes de gauche, lisez à droite. Moi, je pense que les réseaux sociaux, le danger, c'est que souvent, les algorithmes font en sorte qu'on est exposé au contenu qui nous réconforte, qui conforte notre vision du monde. On peut faire, cela dit, la même chose avec les médias. Je vous donne un exemple. Si moi, je m'intéresse aux États-Unis et que je regarde seulement CNN et que j'ai seulement le New York Times, je vais avoir une certaine vision des États-Unis. Si je regarde juste Fox News et que je lis seulement le Wall Street Journal, je vais avoir une certaine vision des États-Unis. Si je consulte les quatre médias puis je rajoute NPR, par exemple, qui est plus centriste, là, j'ai une vision plus intéressante des États-Unis, puis on peut l'appliquer aussi au monde. Si je veux comprendre les Européens, il faut que je lise des médias européens. Si je veux comprendre le Canada anglais, il faut que je lise le Canada anglais. Donc, je ne dirais pas avoir 10 médias, mais peut-être 5 bons médias qui sont à gauche et à droite, qui sont européens et américains et qui permettent d'avoir une vision globale. Donc, je pense que ça permet de mieux comprendre dans le monde dans lequel on vit et surtout d'anticiper ce qui peut arriver. Donc, c'est à peu près ça que je donnerais comme conseil.
Juste avant de vous quitter, François Normand, où est-ce qu'on peut vous lire, vous trouver? Vous avez publié un livre dernièrement, notamment.
Journal des affaires, qui sort 14 fois par année, où j'ai mon analyse Zoom sur le monde. Sur le web aussi, lesaffaires.com, le vendredi en fin de journée, le blog Zoom sur le monde à chaque deux semaines. Effectivement, j'ai sorti un recueil en 2023, c'était Zoom sur le monde, c'est un recueil qui regroupait 20 analyses géopolitiques. Je travaille sur un bouquin que je vais publier peut-être dans un an, donc un ouvrage original justement pour comprendre le monde dans lequel on vit avec un recul historique, comprendre le présent puis les scénarios possibles pour l'avenir. Donc, moi, je me dirais, je suis tombé dans la potion magique, la vomite de la potion magique, comme disait
Obélix.
Comme Obélix. Donc, moi, c'est une passion chez moi. Donc, je vous dirais, c'est ça. Donc, consulter les affaires. Voilà. Donc, ça peut vous permettre. Vous pouvez lire d'autres médias, bien sûr, mais ça permet de comprendre.
Parfait. François Normand, merci beaucoup.
Merci, au revoir.